ERC Entrepreneur est un nouveau programme proposé par la Commission nationale des jeunes entrepreneurs de la FEC en collaboration avec la radio UFM. Cette émission se positionne comme un levier essentiel pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation au sein de la jeunesse congolaise. Prenez rendez-vous tous les deuxièmes vendredis du mois à 19h05 sur la première radio urbaine de la RDC.
Je suis très content de vous retrouver en 2025 pour DRC Entrepreneur. C'est le premier numéro de l'année et ce premier numéro est très spécial. Spécial non seulement pour s'en dérouler, mais également avec l'invité que j'ai ce soir avec moi. J'ai dit bonsoir à Christopher Moukoka.
Bonsoir Clostéphie.
Un plaisir de vous recevoir dans DRC Entrepreneur. On va se concentrer ce soir sur les opportunités d'entrepreneuriat en 2025. Quelles opportunités business dans notre pays pour 2025, c'est le début de l'année. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont en train de travailler sur la résolution et parmi ces résolutions, il y a beaucoup de gens qui vont se convertir en entrepreneurs.
Oui, c'est vrai. Ce qui me vient à l'esprit là tout de suite, c'est déjà de se mettre d'accord sur ce qu'on entend par opportunité. Un entrepreneur, c'est quand même quelqu'un qui, à un moment donné, remarque qu'il y a un vide sur le terrain, il y a un besoin qui n'est pas satisfait ou pas assez satisfait, et lui vient avec une solution pour satisfaire ce besoin-là. Et donc, l'opportunité, justement, c'est quelque chose qui est directement lié à la personne. Pourquoi je le dis ? Par exemple, moi, je peux considérer que c'est intéressant aujourd'hui d'avoir des hôtels 5 étoiles parce qu'il y a une clientèle exclusive qui veut bien loger dans des hôtels 5 étoiles. Sauf que je n'ai pas les millions de dollars pour investir dans un hôtel 5 étoiles. Est-ce une opportunité ? Oui. Est-ce qu'une opportunité pour moi ? Non. Donc, il faut regarder l'opportunité à la lumière des gens et je pense qu'il faudrait qu'on regarde par catégorie quelles sont les opportunités aujourd'hui pour un étudiant qui termine en économie, qui sait utiliser un tout petit peu l'outil informatique. Quelles sont les opportunités pour, des jeunes de la diaspora qui commencent à réfléchir à revenir au pays et quelles sont les opportunités pour les entrepreneurs qui sont sur place. Donc, on peut regarder ça sous ces angles-là.
Donc, les opportunités sont proportionnelles à ces personnes qui veulent s'élancer dans des activités. Mais avant d'entrer vraiment sur la compréhension de ces concepts, je dois vous présenter. Il est faux. C'est vrai que vous n'êtes même plus à présenter aux yeux de plusieurs personnes, mais il faut les refaire encore. Actuellement, vous êtes le vice-président le vice-président en charge des investissements à la Commission nationale des jeunes entrepreneurs de la FEC. Vous êtes le directeur général de B2 Group. Vous êtes entrepreneur donc, mais également DG du restaurant Coucou et plusieurs casquettes. C'est assez pour nous partager aussi cette expérience, cette expertise. Alors, l'opportunité est proportionnelle et relative aussi à chaque personne. Mais ce que je n'ai pas compris, l'opportunité, quand on dit de façon générale, j'ai dit « Ah, l'opportunité est zatée ». On s'est dit qu'on veut aller chercher quelque chose qui va te permettre à gagner de l'argent. On reste sur cette logique ?
Oui, on reste sur cette logique, mais c'est aussi peut-être l'importance aussi de faire peut-être un distinguo entre le COP et l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quoi ? Ou l'entrepreneur, c'est qui ? L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée de la valeur. Cette valeur, il la met dans un produit ou un service et il commercialise ça sur un marché de manière régulière. Donc, il y a le côté régulier. Kobe ta COP, comme on a l'habitude de le dire dans le jargon ici, c'est qu'il y a une petite faille, il y a une activité que je peux lancer rapidement, vendre un truc ou être intermédiaire dans une transaction. Je gagne de l'argent. Il y a le côté non régulier qui est là-dedans. Donc, moi, je ne me limite pas juste au côté vraiment COP, mais je regarde vraiment d'un point de vue opportunité entrepreneuriale. Et là, on a des opportunités de base liées à l'état du pays actuellement. Il suffit de regarder les bases de la vie. On a 20 millions d'habitants ici. Ces gens-là doivent manger. Ces gens-là doivent se loger. Ces gens-là doivent se déplacer. Ils doivent consommer. Ils doivent se distraire. Donc, dans toutes ces catégories-là, on peut maintenant regarder quelles sont les différentes opportunités qui peuvent être à l'intérieur de manière générique. Et maintenant, par rapport au type de budget que quelqu'un peut avoir, qu'est-ce qui peut être mis en place ?
Voilà. Et puis, vous avez sorti un livre qui parle d'opportunités et d'idées, d'ailleurs, de business pour essayer de s'élancer à Kinshasa. Ouais. Qu'est-ce que ça voudrait dire ?
Oui, c'est, en fait, le livre, c'est 50 idées de business à Kinshasa. Et pour la petite histoire, j'ai quand même pas mal d'abonnés, un réseau assez fourni, on va dire, sur LinkedIn. Et tous les jours, on me posait toujours la question de qu'est-ce que je peux lancer à Kinshasa pour 10 000 $, pour 5 000 $, pour 50 000 $, etc. Et c'est comme ça que, comme les gens n'avaient pas forcément d'idées directement, bah, j'ai fait un recueil d'idées que j'ai présenté sous forme de modèle économique. Et pour le 3/4 des idées, il y a des budgets associés, etc. Mais l'idée derrière, c'est juste de susciter, parce que ouais, le livre, c'est quand même vendu à plus de 3 000 exemplaires. Ça veut dire qu'il y a 3 000 personnes qui ont les mêmes idées. Mais en fait, chacun est censé l'adapter par rapport à sa situation propre et à ses objectifs. Par exemple, l'une des idées du livre que j'aime particulièrement, ce sont les espaces de parking. On sait à Kinshasa depuis un moment que les constructions se font sans tenir compte des places de parking. Vous allez voir un immeuble de 3, 4, 5 niveaux, mais avec, je ne sais pas moi, 10 appartements à l'intérieur, mais l'espace de parking, c'est 5 véhicules ou 6 véhicules. Vous voyez, ça pose un problème. Alors, ce problème-là est résolu par des mécanismes actuels. C'est quoi ? C'est, je ne sais pas moi, c'est les sous-siats qui aujourd'hui sont transformés aussi en partie en espace de parking où on paye de l'argent. Mais il y a des gens qui peuvent justement mettre en place un business qui est simplement d'avoir un espace de parking. Dans certaines zones même, il peut être plus intéressant de détruire votre maison, de laisser la parcelle comme espace de parking sécurisé, de vous faire payer, je ne sais pas moi, 2 $ par moto qui sont stationnées là-bas ou, je ne sais pas, 3 $ par véhicule. C'est peut-être même plus rentable que de mettre des locataires.
Alors, par rapport à cette initiative de sortir ces livres, on voit opportunité, mais est-ce qu'opportunité, c'est aussi à plusieurs échelles ? Parce qu'il y a quelqu'un qui dira, j'avais cette idée, mais je ne l'applique pas, parce que c'est une question de budget aussi. Opportunité, oui. Ça va également en fonction du budget. Est-ce que c'est des opportunités qu'il faudrait présenter normalement ou c'est pallier plutôt au problème budget ?
Non, je pense que c'est des... Bon, déjà, il faut dire, hein, quand on fait un business où on est dans le cadre entrepreneurial, l'idée, c'est la partie la plus simple. Et ça représente peut-être 10% pour certaines personnes, ils disent 1% du projet en lui-même. Le reste, c'est l'exécution. C'est-à-dire qu'on peut tous avoir la même idée, mais on n'a pas tous les mêmes compétences, capacités pour implémenter cette idée, même si on avait le même budget. On peut tous avoir 100 000 $ ici et qu'on doit lancer un business de taxi. On ne va pas le faire de la même manière selon les objectifs qu'on a, selon les capacités et compétences. Donc, dans le livre, on vous met les idées de manière assez détaillée et on vous propose des budgets minimums pour les mettre en place. Mais quelqu'un qui aurait 50 000 $, 100 000 $ par exemple, il sait qu'il va étendre justement le projet à ce niveau-là. Et c'est très important de revenir aussi sur le côté budget parce que beaucoup de choses dont se plaignent les Congolais ou les jeunes entrepreneurs, c'est le financement qui manque.
Mais ce n'est pas des opportunités.
Mais c'est aussi une opportunité parce que c'est un problème, c'est un besoin. Et donc, mettre en place un service qui permet aux gens, par exemple, de trouver du financement pour leur projet, c'est un business en soi. Mais c'est juste qu'il faut voir maintenant qui a la possibilité de... Pour qui c'est une opportunité ? C'est clairement pas pour tout le monde.
Alors, le livre, il est sorti, je pense, depuis 2 ou 3 ans. Mmh. Est-ce que c'est encore, on va dire, d'actualité aujourd'hui ? Est-ce que c'est aussi important ou c'est déjà obsolète ?
Je crois effectivement que le livre est toujours d'actualité parce qu'en fait, une bonne partie des idées qui y sont présentes sont toujours d'actualité. Maintenant, moi, personnellement, en tant qu'auteur, j'ai envie de le faire évoluer un tout petit peu. Parce qu'il y a des idées, par exemple, comme les mototaxis, qui me parlent plus trop, parce que je connais un peu les difficultés aujourd'hui. J'ai eu un client, par exemple, qui avait plus de 500 mototaxis à un moment donné, et qui s'est bien cogné la tête. Donc, du coup, c'est un business, par exemple, qu'il faudrait faire évoluer, et je pense qu'il y a d'autres opportunités que j'aimerais bien inclure. Donc, oui, le livre est toujours d'actualité, mais en regard aussi des feedbacks que j'ai eus, il faut que je rajoute des compléments. Donc, pour certaines idées, on peut faire des projets pilotes pour que les gens puissent voir dans le concret comment ils pourraient mettre ça en place.
Alors, 50 idées venant d'une seule personne, vous êtes milliardaire normalement. Sur base de quoi, hein ? Sur base de quoi vous vous êtes fixé pour sortir toutes ces idées assez...
Déjà, je tiens à dire, je n'ai rien de spécial. Parler à n'importe quel entrepreneur digne de ce nom, c'est-à-dire quelqu'un qui fait de l'argent à Kinshasa, il est capable, en RDC, il est capable de vous donner chaque jour même 3, 4, 5, 6 idées de business par jour. Pourquoi ? Parce que quand on n'a pas d'idées, le problème, c'est qu'on en manque. Mais quand on a déjà commencé à lancer quelque chose, le problème, c'est qu'on en a trop. Donc, moi, j'ai la particularité d'avoir un cabinet, donc Kebeto Group, et on travaille beaucoup avec les chefs de PME ici. Chaque jour, enfin, chaque année, on travaille au moins avec une centaine d'entrepreneurs, porteurs d'idées, chefs d'entreprise, etc. Et donc, on est exposé à énormément de modèles économiques, de business. Et ça nous permet d'avoir une idée assez claire de ce qui se passe et de ce qui fonctionne. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que je suis quelqu'un de très curieux. Moi, quand je monte sur une moto, je demande au motard combien il fait par jour. Je lui demande, donc, comme ces temps-ci, j'apprends qu'il y a des motards qui font 150 000 francs.
Est-ce qu'ils s'ouvrent aussi? Parce qu'après,
oui, mais ils s'ouvrent, mais il faut être bien. Il faut être stratège. Il faut savoir comment s'exprimer. Il faut être quelqu'un de chaleureux. Mais les gens sont clairs. Quand j'entre dans un restaurant, par exemple, je me pose la question de combien, quel est le chiffre d'affaires que le restaurant fait, quel est le montant minimum. Donc, c'est cette curiosité-là que j'apportais au départ à mes clients premium. Que j'ai essayé de centrer. Et pour vous dire, en fait, on avait largement dépassé les 100 idées de business. Il fallait faire un tri. Donc, j'ai mis les idées que j'estimais qu'une bonne partie des gens pouvaient bien vouloir mettre en place et qui étaient simples. Et j'ai gardé quelques idées pour moi sous le coude. Et puis, j'ai prévu ça pour deuxième édition, troisième édition du livre.
Qui arriveront bientôt ?
Oui, déjà l'année prochaine. Enfin, cette année, sorry. Il y aura une deuxième édition.
Cette année, on est en 2025 et la grande question de ce soir, c'est quelles opportunités pour 2025 ?
Il y en a plusieurs. Si vous êtes un étudiant ou un diplômé qui vient de finir ses études et que vous avez des compétences, vous avez fait droit, vous avez fait économie, etc., il y a énormément de besoins dans tout ce qui concerne le consulting au PME. Pourquoi je le dis ? Parce que l'IA est venue rabattre beaucoup de cartes. C'est-à-dire aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il y a moyen aujourd'hui de gérer, par exemple, plus facilement des campagnes publicitaires. Il y a moyen de générer à moindre coût des publicités vidéo. Avec Sora, vous avez la possibilité de faire toute une petite campagne. Et puis évidemment, vous allez rajouter d'autres logiciels pour le montage, mais vous pouvez le faire et ça ne vous coûte pas grand-chose. Vous pouvez également faire de l'automatisation de WhatsApp. Beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises aujourd'hui, en tout cas qui travaillent en B2C, donc avec des particuliers comme consommateurs finaux, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire ? Ils ont leur WhatsApp, on peut écrire, et puis s'ils ne sont pas disponibles, il y a un message automatique qui répond pour dire « on n'est pas là, vous posez votre question », et puis il y a quelqu'un qui doit être là. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il est possible de programmer un automate, un chatbot, qui va répondre de manière tout à fait fluide, sans même que vous vous apercevez que ce n'est pas un humain, à ces différentes questions-là. Donc, si vous savez aujourd'hui intégrer l'intelligence artificielle dans les différents processus d'une entreprise, en particulier les PME, en fait, vous avez un gros marché dans lequel intervenir. Bien évidemment, ça va détruire des emplois. Mais ça, on le dira plus tard. Mais ça va détruire des emplois, ça, c'est clair.
L'intelligence artificielle, en même temps, qui vient aider, mais qui va quand même détruire certains emplois. Mais ça vient aider énormément, surtout pour des initiatives de chatbots et tout ce qui va avec. Donc, en 2025, c'est plus la technologie ?
Oui, pour moi, il y a le côté technologique qui est, en tout cas pour ceux qui n'ont pas beaucoup de budget. Parce que vous savez, quand vous n'avez pas 100 000 dollars sous la main et que vous devez démarrer un business, c'est plus simple de faire un business de service. Donc l'IA, ça vous permet de faire des business de service. Vous êtes comptable, vous êtes communicant, vous êtes créateur de contenu. En fait, l'IA aujourd'hui vous facilite grandement la tâche pour pas mal de choses. En fait, tous ceux qui se sont spécialisés pour dire « moi, je suis juste créateur de contenu, communicant », ils vont se faire remplacer par des gens qui sont IA plus communicant et autres. Parce qu'eux, ils apportent une dimension qui est beaucoup plus globale et ils coûteront moins cher. Donc, c'est ça la réalité du terrain. Moi, je pense que l'IA, c'est quelque chose qui est très sous-coté. C'est une évolution extrême. Mais malheureusement, à Kinshasa ou en RDC de manière générale, je me rends compte que plein de gens sont encore en train de dormir, ne prennent pas le temps d'apprendre, ne payent pas alors que ça ne coûte pas grand-chose. Et ça, c'est compliqué. Mais en dehors de ça, on a des choses qui sont encore basiques. Par exemple, l'année passée, le prix de la tonne de cacao sur le marché mondial, a dépassé de loin le prix de la tonne de cuivre. Aujourd'hui, la RDC est capable de produire, je considère, autant de tonnes de cuivre que la Côte d'Ivoire, qui est, je pense, le leader actuellement sur le marché, parce qu'on a les terrains. En Ghana, Tsundi, il y a une boîte formidable qui fait des choses là-bas. Mais combien de personnes savent ce que c'est que... Voilà, comment on fait pour faire pousser du cacao ? Comment ça fonctionne ? Comment avoir des hectares ? Les gens ne sont pas au courant, mais c'est une opportunité. Quand on dit que ça dépasse le prix de la tonne de cuivre, la tonne de cacao est passée de 2 500 à 3 000 $ la tonne à 12 000 $. 4 fois le prix. Je ne sais pas si on s'en rend compte.
Et c'est ce qui est énorme, mais il y a un problème d'information, c'est vrai. Après, il y a un problème également d'outils. Et puis, il y a un problème de... Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont informées, qui sont à Kinshasa, difficulté d'aller en province. Et il y a toutes ces réalités, en tout cas.
Oui, mais c'est une culture de rente. C'est pas, vous plantez le cacao aujourd'hui, ce n'est pas le demain que ça va pousser. Donc, vous avez un certain timing pour que vous commenciez à... Ça pousse et puis que vous puissiez commencer à exporter. En fait, et c'est ça, moi, je pense, le drame. Le drame de notre pays ou, j'ai envie de dire, de nous, Congolais, ce n'est pas les opportunités qui manquent. C'est nous qui ne sommes pas au rendez-vous. C'est ça, le problème.
À ceux qui disent qu'il n'y a pas d'opportunité en RDC.
C'est complètement bidon, ça, c'est complètement faux. J'ai envie de vous dire, il suffit de regarder. Moi, j'ai envie de vous dire, ne me croyez pas, mais posez-vous juste la question de quelles sont les entreprises qui sont venues s'installer ici et à coût de combien de millions. On a une banque, deux banques qui sont venues s'installer ici. Vous avez une idée de combien elles ont dépensé pour pouvoir intégrer le marché congolais? On parle de centaines de millions de dollars. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont déjà actifs dans d'autres marchés. Ils sont successful, donc ils sont en réussite. Mais ils estiment qu'il faut quand même venir en RDC pour mettre 100 millions de dollars, malgré toutes les difficultés sécuritaires qu'on a, les problèmes de mentalité, tout ce qu'on veut. Mais ils disent qu'il faut absolument mettre 100 millions de dollars sur la table. On parle d'une entreprise aussi.
C'est vrai, mais après, ce n'est pas tout le monde qui va chercher ses financements ou ses prêts à la banque. Il faut quand même être assis quelque part.
Oui, mais ça, c'est juste pour dire qu'en fait, si quelqu'un est capable de prendre 100 millions de dollars et de l'investir dans votre pays, vous devez vous poser la question de quelles sont les informations dont dispose cette personne pour croire en notre pays.
Avoir cette assurance de venir investir un pays où
avec toutes
vous
les difficultés
qu'il n'y a pas d'opportunité.
Donc ça veut dire que nous aussi, il faut maintenant qu'on se réveille, qu'on commence à regarder pour se dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je peux mettre la main sur la patte? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux régler comme problème? J'ai envie de dire, il y a des besoins ou des... Aujourd'hui, par exemple, on voit beaucoup de stand-uppers en train de se développer. C'était pas comme ça que les choses étaient vues. On voit beaucoup de créateurs de contenu commencer à vendre des placements de produits pour des marques. C'était des choses qu'on n'arrivait pas à imaginer. Mais aujourd'hui, il faut quoi pour arriver à faire 1 million de vues sur TikTok? Est-ce qu'il faut nécessairement être blindé d'argent pour réussir à le faire? Non. En fait, il y a plein d'opportunités dans différents secteurs. Il y a des opportunités qui ne demandent pas beaucoup d'argent. Et ça, c'est souvent des gens qui vont être dans le service. Allez, je vais vous donner des exemples clairs. Par exemple, il y a beaucoup de PME qui n'ont pas les moyens ou qui estiment qu'embaucher des comptables, ça coûte trop cher. Mais vous pouvez vous créer un système centralisé où vous accordez, où vous offrez un service de comptabilité à moindre coût, grâce à l'IA notamment, à différentes PME qui payent un forfait. Vous ajoutez à ça peut-être un service juridique, vous ajoutez à ça peut-être un service fiscal, parce que bon, tout le monde se plaint un peu de... On paye un peu trop ou on ne maîtrise pas trop. Donc, vous avez quelque chose comme ça. Vous pouvez être 5-6 étudiants, mais vous mettez ça en place, vous avez de l'argent. C'est pas très compliqué.
Il y a assez d'opportunités. Peut-être que ces deux personnes, des entrepreneurs ou des individus, des Congolais qui ne voient pas mieux et qui se dirigent de l'autre côté, donc ils partent à contresens. Et il y a aussi cette question sur la concurrence. On dit qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ressortent de la diaspora, des gens qui viennent un peu de partout. Et il y a un mouvement en Europe. On va dire un mouvement retour vers l'Afrique. C'est dans tous les pays africains. Des Ivoiriens rentrent en Côte d'Ivoire, bien qu'il y a des Ivoiriens qui sont nés en France, en Belgique ou dans d'autres pays. Ils disent non, je dois rentrer et investir dans mon pays. Et tous viennent se confronter ici. Est-ce qu'il y a quand même une concurrence quelque part entre ces entrepreneurs qui sont ici, qui parfois cravachent, sont sous ces gros soleils de Kinshasa, mais qui font face à certains entrepreneurs qui viennent de l'Europe et qui gagnent certains marchés?
Oui, en fait, la concurrence est là, mais pas seulement avec la diaspora qui rentre, mais même avec les acteurs locaux. Aujourd'hui, devenir entrepreneur, c'est un peu quelque chose à la mode, quoi. Tout le monde se dit, je dois lâcher mon boulot, je dois lancer mon truc de mon côté. Donc, en fait, la concurrence est là, sauf que ou le bien ou le mal, je ne sais pas, c'est qu'on est quand même sur un gros marché. Je ne sais pas, parfois, on ne se rend pas compte à quel point on est un grand pays. 100 millions d'habitants, c'est énorme. Kinshasa, 20 millions d'habitants, c'est plus que toute la population du Congo-Brazzaville. Le Gabon, c'est à peine 2 millions d'habitants. Et quand vous prenez la population qui vit au-dessus du seuil de pauvreté, on prend, je ne sais pas moi, 20% de la population, 4 millions d'habitants. En fait, on a 4 millions de personnes ici, rien qu'à Kinshasa, qui vivent largement au-dessus du seuil de pauvreté, qui ont les moyens de consommer. Mais je ne sais pas, quelle est cette entreprise, quel est ce restaurant qui va servir 4 millions de personnes? Il n'y en a pas. Donc, ce qui veut dire que oui, il y a de la concurrence, il y a de l'espace. Maintenant, on n'est pas tous égaux face au marché. Ça, c'est clair. Peut-être quelqu'un qui vient de l'Europe, il a vu des choses, il a aussi appris des choses. Mais vous qui êtes ici aussi sur place, vous avez aussi un avantage de terrain. Vous savez comment les choses se passent. Vous êtes plus résilient. C'est ça. Donc, chacun se bat avec les armes qu'il a. Donc, évidemment, il y a certains marchés où c'est verrouillé dans le sens où pour intégrer ce marché-là, il faut avoir beaucoup d'argent. Je prends l'exemple des supermarchés, par exemple, parce qu'on parle de marché, supermarché. Ça fait qu'aujourd'hui, s'il faut lancer un supermarché quelque part dans la ville, il faut avoir les reins solides. Parce qu'il y a déjà aujourd'hui une très grosse compétition de différents acteurs qui sont là et qui, parce que c'est du commerce, donc c'est un business où il faut avoir un pouvoir d'achat pour pouvoir avoir des biens à moindre prix. Vous voyez, celui qui arrive à vendre sa sardine 20 fois, j'allais dire 20 fois, 20% moins cher que le concurrent, ben en fait, il peut s'attirer plus de gens, etc. Donc, c'est un marché qui est assez pas évident, mais sinon, sur la plupart de ceux qui y a affaire, c'est ouvert.
Alors, s'il y a un entrepreneur qui nous suit en ce moment, je pense qu'il se pose une question. Vous dites des très bonnes choses, mais on veut rentrer dans vous. C'est vrai, vous avez dit, il y a une forte concurrence, il y a même des acteurs locaux, tout le monde veut être entrepreneur, il paraît que c'est beau, c'est chic être entrepreneur. Peut-être que moi également, je deviendrai entrepreneur bientôt.
Je vous le souhaite.
Alors, comment vous faites-vous personnellement pour aller vers les opportunités et les gagner?
C'est simple, je crois que quand moi j'ai commencé, c'est ce qu'on applique d'ailleurs, hein, donc on commence d'abord par repérer quelque chose qu'il y a sur le marché. Si je prends l'exemple du restaurant Coucou par exemple, quand on a commencé il y a 5 ans, il n'y avait pas encore de livraison de poulet mayo dans la ville. Donc quand on veut manger à la pause ou quoi que ce soit,
il faut passer sur Bandal.
Il faut rentrer à Bandal, faut commander ou faut envoyer quelqu'un, etc. Il n'y avait pas ça. Deuxièmement, il y avait un problème aussi au niveau des accompagnements. Le seul accompagnement qu'il y avait, c'était essentiellement la chikwang. Donc moi qui suis un fan de banane plantain, pas de banane plantain, pas de frites, pas de pâtes, pas de riz, etc. Il y avait aussi un problème d'hygiène. Voilà, vous savez comment ça se passe. Vous ne savez pas où la personne a mis ses mains avant de venir là. Il vous tient un bambou ou un petit bâton pour que vous puissiez sélectionner la viande. Mais lui, il la tient à la main, il te dit « Ikoku fakaka, na vinaigre, na moto ». Donc, tous ces éléments-là mis ensemble, on s'est dit non, il y a une opportunité. Si nous, on a ce problème-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce problème-là. On a fait une étude de marché et puis on a démarré quelque chose. Donc, ce n'est pas facile, bien évidemment. Ça ne veut pas dire que c'est évident. Mais derrière, on a pu servir plus de 5000 clients à travers la ville de Kinshasa.
Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire qu'il faut avoir commencé avec l'étude du marché.
Bien sûr. En fait, ce qu'il faut commencer, parce que parfois, on n'a pas les moyens pour faire une étude de marché comme il se doit, mais au moins, il faut se poser la question de la pertinence de l'opportunité et si nous, on a les moyens de saisir cette opportunité-là. C'est aussi simple que ça. Donc, on commence par là. C'est comme la raison pour laquelle je suis devenu consultant indépendant. Et pourquoi? C'est parce qu'on était... Il y avait un vide par rapport au conseil stratégique. On est dans un pays où tout le monde vit au jour le jour. Vous voyez, personne ne pense sur 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, on avait besoin d'individus capables de dire, OK, s'il faut réfléchir sur 2 ans par rapport à votre business, voici les outils qu'il faut et voici comment je peux vous accompagner. Donc, il y avait un vide et nous, on a comblé ce vide-là. Donc, vous pouvez vous poser la question aujourd'hui, pour ceux qui nous suivent, quelles sont les compétences que vous avez? Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce qui vous rend unique? Est-ce que c'est préparer le pondou? Est-ce que c'est vous danser d'une certaine manière? Est-ce que vous êtes... Vous trouvez ce qui vous rend unique? Qu'est-ce qui fait que vous êtes exceptionnel? Et ensuite, vous regardez sur le marché s'il y a des opportunités par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire s'il y a des gens qui sont prêts à payer pour cette compétence que vous avez. Ensuite, vous faites le test. Si les gens vous payent pour ça, c'est bon. Il ne faut pas juste vous cantonner à dire à la personne « Est-ce que tu payerais pour que je te vende mon pondou ?» Non. Il faut dire « Je suis en train de vendre des pondous, je mets ça dans des box d'un kilo. Est-ce que tu achètes à tel prix ou pas ?» Si la personne achète, ça, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose.
Non seulement que vous êtes entrepreneur, parce que vous êtes le directeur général de Coucou, mais vous servez également d'autres entrepreneurs. Vous êtes aujourd'hui à la Commission nationale de jeunes entrepreneurs. Comment ça se passe là-bas?
Bon, ça se passe plutôt bien. On a les mêmes défis. En fait, peut-être pour la petite histoire, la raison pour laquelle moi j'ai rejoint la FEC et plus précisément la commission à l'intérieur, c'est qu'il y a ce besoin-là de fédérer. On a des défis qui sont communs. Hein. Quand vous, je ne sais pas, la fiscalité, la Startup Act, c'est quelque chose sur lequel on revient souvent. On a des défis qui sont communs et que chacun dans son coin puisse essayer d'adresser ces défis alors qu'en réalité, on gagne en étant beaucoup plus nombreux. Moi, c'était la chose qui m'a attiré le plus au niveau de la FEC. Et l'objectif, c'est de défendre les intérêts des jeunes entrepreneurs. Et dans jeunes entrepreneurs, il y a d'abord entrepreneurs. Quand je dis entrepreneur, c'est rien qui fait de l'argent, qui emploie des gens, etc. Donc, ce n'est pas des gens qui ont juste des idées, qui se baladent. Non, c'est vraiment des gens qui travaillent, qui emploient des gens, mais qui sont jeunes, donc qui ont moins de 35, moins de 40 ans. On essaye de fédérer les différentes problématiques qu'on a et de les apporter sur le débat public auprès des différentes autorités, mais aussi de trouver des solutions à l'interne.
Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça marche? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se disent. J'espère que vous les lisez aussi. Non, c'est une association de personnes entre eux. C'est de personnes qu'on privilégie. Est-ce que c'est possible pour tout le monde, pour tout entrepreneur, de rejoindre la commission et de bénéficier aussi de ces avantages?
Bien sûr. En fait, la FEC, c'est une association des entreprises du Congo. Donc, c'est la Fédération des entreprises du Congo. Donc, tout celui qui a entreprise, et je pense qu'avec la mise à jour des statuts qui a été faite récemment, il y a aussi des différentes catégories de membres maintenant. Même un individu, je pense, sans trop dire de bêtises, sans trop m'avancer, probablement peut aussi s'affilier. Mais en principe, si vous avez une entreprise qui est légalisée en RD Congo, vous pouvez rejoindre la FEC à n'importe quel moment. Ce n'est pas un problème. Vous allez dans n'importe quel bureau de la FEC, là où vous êtes dans la République, et puis vous demandez le formulaire, vous le remplissez et on va vous dire quelle est la catégorie de membres que vous avez. Donc, c'est ça. Quand on dit le côté entre soi, oui, entre soi, parce qu'en fait, ce sont des entrepreneurs qui sont légalisés et qui fonctionnent. Donc, ce n'est pas pour les gens qui parlent seulement sur les réseaux. Donc, c'est pour les gens qui emploient, qui sont vraiment là, quoi.
Pour la plupart, donc, ce n'est pas de personnes qui enregistrent leurs entreprises. Avant d'arriver à la fin, il faudra résumer. Vous pensez résumer votre parcours avec quel mot?
Mon parcours ou mon intervention?
Votre parcours. Le parcours entrepreneurial.
Je pense que le mot, ça serait résilience, parce qu'on est quand même dans un pays où le climat des affaires est très compliqué, très difficile. Mais s'il y a d'autres personnes qui réussissent, il n'y a aucune raison pour qu'on ne réussisse pas non plus. Donc moi, c'est le mot résilience. Je ne suis pas encore arrivé, mais je considère qu'avec plus de centaines de personnes que j'ai eu employées, qui ont pu bénéficier en fait, des salaires grâce au business qu'on a pu mettre en place, c'est quelque chose qui m'encourage à continuer à me battre pour avancer.
Est-ce qu'il y a quelques années, il y a 5 ans, 10 ans, 5 ans d'ailleurs, parce que ça coïncide avec le lancement de Coucou, vous vous voyez là?
Bon, je me voyais plus loin. Je me voyais déjà milliardaire avec un cigare, mais je ne suis pas là. Mais par contre, les épreuves que j'ai traversées, ce que j'ai pu apprendre, non, je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait une telle richesse dans le pays. Et tout ce que je me dis, c'est de continuer à apprendre et essayer de transmettre ça à un maximum de gens.
Deux questions pour terminer l'émission. Ici, on va essayer un peu de vous découvrir. C'est difficile de découvrir un entrepreneur, surtout un entrepreneur éloquent. En deux questions. La première, c'est est-ce que vous préférez travailler pour vous-même, c'est-à-dire vous êtes indépendant, ou vous préférez être employé dans une entreprise qui vous paye les triples de votre salaire en étant seul?
Déjà, je pense qu'il y a très peu d'entreprises au Congo qui peuvent payer le triple de mon salaire.
Il y a trop peu, mais il y en a quand même.
Il y en a, bon, ça, je blague. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est la décision d'entreprendre est venue d'où? Moi, j'ai mon père qui était directeur général d'une ONG de la place. Très grande ONG, puissante, tout ce que vous voulez. Mais il a quitté par la petite porte. Il a été remercié, comme on dit, en monnaie de singe. Il a porté plainte, tout ce que vous voulez. Il est mort avant même de toucher l'argent pour lequel il avait porté plainte. C'est quelque chose qui m'a marqué et qui m'a fait me dire que de mon vivant, je ne travaillerai jamais dans une entreprise où je n'ai pas au moins une part. Je ne travaillerai jamais dans une entreprise où je ne peux pas avoir de part.
Là, c'est l'esprit entrepreneurial qui parle. Hein.
Non, non, là, c'est d'abord la conséquence d'un traumatisme personnel vécu. C'est-à-dire, je me dis, je ne travaillerai jamais dans une entreprise où je ne peux pas avoir de part. Je ne travaillerai jamais dans une entreprise où je ne suis pas actionnaire. Donc ça, c'est d'abord quelque chose. Pourquoi? Parce que quand on est copropriétaire, on a quand même quelque chose à dire, même si on est minoritaire. C'est aussi, vous travaillez pour ça. Donc ça, c'est le premier point.
Et ça, par rapport à cette question, acceptez-vous aussi, on va dire, des actionnaires dans vos entreprises?
Bien sûr, sans problème. Okay. Je suis toujours ouvert à quelqu'un qui va apporter de l'argent, apporter de l'expérience et autres. On est ouvert. Et la plupart des entreprises, d'ailleurs, le sont. C'est juste que les gens ne se posent pas la question. Compte. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, j'ai aujourd'hui une idée assez claire de ce que je vaux sur le marché et de comment ça fonctionne, la consultance et autres. Vous savez que les consultants gagnent... Bon, ils facturent cher, on va dire ça comme ça. Même si les marchés ne sont pas réguliers, mais ils facturent cher. Donc, s'ils arrivent à mettre en place un système qui permette à ce que les marchés soient réguliers, donc en réalité, ils vont se retrouver beaucoup plus que n'importe quel salarié.
Aussi, on dit aussi qu'un salaire régulier, on sait que ça manque pas chaque mois. C'est quelque chose de... Quelque part, tu dis, ah, je peux m'asseoir sur mon fauteuil. Même s'il n'y a pas de marché, je suis à l'aise. Oui. Bon, je pense que c'est clair.
Non, mais c'est vrai. Mais l'idée, c'est que c'est juste un choix de vie. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est juste qu'il faut comprendre que l'entrepreneuriat n'est pas la seule voie vers la stabilité, la richesse et tout ce qu'on veut. Voilà. Le salariat non plus, l'investissement non plus. Mais L'entrepreneuriat, c'est un choix de vie qui vient avec des avantages et des inconvénients. Et aujourd'hui, le fait d'être capable de se fixer son propre salaire, sa propre rémunération, sa propre valeur, de se réveiller un matin, de faire x10 son chiffre d'affaires, ce n'est possible que dans l'entrepreneuriat. En fait, si vous voulez, même la stabilité de votre salaire dépend de l'entrepreneur qui est à la tête de votre boîte. Si cet entrepreneur-là faillit, même votre salaire stable-là, vous allez tomber aussi. Donc en réalité, c'est toujours l'entrepreneur qui garantit.
Voilà, ce qui est donc c'est une question donc de convenance personnelle. Et la deuxième question pour terminer, quelle est la plus grande découverte en matière d'entrepreneuriat que vous avez pu faire en 2024?
En 2024, ça va être l'intelligence artificielle. Pour moi, c'était dès que j'ai vu ça, au début, je négligeais un peu parce que l'intelligence artificielle, ChatGPT et autres, c'est depuis 2022 pratiquement hein, que ça y a un boom. Je négligeais un peu, mais en 2024, j'ai pris une formation, j'ai payé, j'ai donné à tout mon staff pratiquement une formation sur le sujet. Et je me suis rendu compte à quel point c'est un game changer. Pour vous dire, je sais déjà que cette année, je ne vais pas embaucher de consultant. Par exemple.
Donc,
je sais déjà. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la productivité de tout un chacun a tellement augmenté que ce n'est pas pertinent d'aller se compliquer pour rajouter des gens. C'est pour ça que je dis que c'est les gens ne se rendent pas encore compte. Mais l'intelligence artificielle est venue bousculer. Autant ça va apporter des opportunités nouvelles, autant ça va détruire des gens qui sont habitués à ce confort de justement, je suis là, je fais rien, je fais mon taf, à voilà. 16h, je finis, je pars. Ah ben bah, attendez, on va vous faire partir. Hein.
Il faut se mettre à l'abri. Hein. L'alerte a été donnée. Merci beaucoup, Christopher Moukoka, pour ces partages d'expérience. C'est 2025 qui commence, des nouveaux objectifs, mais surtout, beaucoup d'opportunités. Je pense que vous l'avez suivi religieusement et vous pouvez toujours écouter l'émission en repeat chaque vendredi jusqu'à la fin du mois pour avoir de nouvelles et vous positionner également. Un dernier mot à dire à nos auditeurs?
Lancez-vous tant que vous le pouvez et même si vous êtes salarié, vous avez la possibilité de grimper les échelons. Ne vous contentez pas de là où vous êtes et plein succès pour 2025.
Plein succès pour 2025. Restez à l'écoute de la 94.7.
DRC Entrepreneur est un nouveau programme proposé par la Commission nationale des jeunes entrepreneurs de la FEC en collaboration avec la radio UFM. Cette émission se positionne comme un levier essentiel pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation au sein de la jeunesse congolaise. Prenez rendez-vous tous les deuxièmes vendredis du mois à 19h05 sur la première radio urbaine de la RDC.